Et je n'étais pas d'accord avec ça. Donc cette musique me plaisait beaucoup. J'ai dit, bon, bah, je vais prendre la substance de ça et puis je vais l'adapter à ma langue maternelle. C'est un peu de cette façon que je suis amené à construire un projet un peu qui porte mon identité. C'est-à-dire que je chantais une musique occidentale avec des paroles dites en langue bamiléké, qui est ma langue maternelle, tout simplement.
Et alors, chanteur bamiléké, que ce soit en France, au Japon, aux États-Unis, dans d'autres pays européens que la France, c'est quelque chose qui passe bien pour le public?
C'est-à-dire, ce que j'ai remarqué, et ça, ça m'a vraiment... j'ai eu la confirmation lors d'un concert c'était au Vietnam, à Hanoï. Et j'ai chanté, bon, comme je chante toujours en bamiléké, donc je me pose toujours la question de savoir s'il n'y a pas de gêne par rapport à ceux qui écoutent ma musique, qui aimeraient bien savoir de quoi je parle. Et je me suis aperçu partout où je joue qu'il y a un langage universel qui n'est pas traduit dans une langue particulière, je pense. Il y a le langage du feeling, qui fait que les gens sont déjà d'accord entre eux, du fait du feeling qu'ils ressentent pendant qu'on pendant que cette musique s'exécute. Et s'ajoute à ça, il y a une sorte d'intuition chez les gens qui écoutent de la musique. Il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué. J'ai une amie qui s'appelle Chika Samoto. Lorsque j'ai fait un album, je ne me souviens plus lequel, je crois que c'était Doni, l'album Doni. Je lui ai envoyé une copie. C'est une très grande amie que j'avais rencontrée en Indonésie lors d'une tournée, justement. Et je lui ai envoyé cet album. Lorsqu'elle a écouté cet album, il y avait un titre qui l'avait particulièrement marqué. Le titre s'appelle Lana. Et elle me dit, à chaque fois qu'elle écoute cette chanson, elle est en pleurs. Elle me dit, mais ça parle de quoi? J'ai dit déjà, Lana, ça veut dire pleure. Donc c'est ce que tu ressens, c'est en rapport avec le titre même de la chanson. Donc elle avait une sorte d'intuition qui lui traduisait déjà le texte sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Donc je lui ai effectivement donné la traduction littérale du propos que je tiens dans la chanson. Mais la langue, je pense que ça n'a jamais été un problème important. Déjà, et beaucoup de personnes écoutent la musique américaine, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas le 8/10 de ce qu'ils racontent dans ces chansons-là. C'est juste le feeling qui entraîne les gens. Et après, ceux qui veulent en savoir plus, eh bien, ils se penchent dessus, posent des questions, ils vont sur Internet et puis ils lisent le texte. Généralement, les gens chantent de manière... les gens ne comprennent pas toujours, même en français. Parfois, les gens chantent des chansons en français, dans leur langue même, mais qu'ils ne comprennent même pas le sens des propos qui sont tenus. Donc voilà, en chantant bamiléké, c'était aussi pour moi une façon de rendre hommage à cette belle langue qui est bamiléké.
On va écouter un extrait de l'album Abango de Roland Tchakounté qu'il avait sorti il y a quelques années. Et puis on écoutera l'intégralité de cette interview le 28 septembre dans Sweet Home Chicago, bien sûr. Voilà, parmi les artistes et puis organisateurs, musiciens qu'on a pu rencontrer, des bénévoles, mais également des spectateurs, dont un certain Thierry Langrand. Salut Thierry, eh oui. Qu'est-ce que ça donne ? Thierry, un fidèle du blues, ça va Thierry ?
Bah écoute, ça peut pas aller mieux ici, c'est le paradis, pour des passionnés comme nous.
Alors c'est le paradis parce qu'on est devant la scène Blues Paradise ou parce que c'est tout le festival qui est comme ça ?
C'est tout le festival, c'est toute une organisation, je viens de discuter avec des bénévoles, c'est des gens qui donnent cœur et âme à une passion commune, c'est juste énorme. C'est ce qui manque d'ailleurs, je trouve, un peu partout, ouais. Ce qu'on trouve ici.
Alors, est-ce que la programmation 2019 est à ton goût, Thierry ? Est-ce que tu as déjà des petits coups de cœur ? Toi qui es là depuis le début, on est presque à la fin de cette dernière journée. Est-ce que tu retiens des artistes que tu aimerais revoir ailleurs ?
Ah oui, complètement. Les citer tout de suite, non. Je vais attendre de les digérer parce que bah, tu fais des belles découvertes. Et ouais, il y a même, personne ne me croit, mais des gens que je ne connais pas, que j'ai rencontrés ici.
Alors, est-ce que tu te souviens des noms des bands que tu as vus ?
Non, pas forcément. Moi je regarde et j'analyse après, j'y vais tranquillement.
Bon, un exemple tout à l'heure avec Alexis Evans, c'était sur la scène Expérience. Un ou deux adjectifs pour les qualifier ?
Surprenant. Et belle découverte pour moi, je connaissais pas. Voilà, super. Tout simplement.
Tu reviendras en 2020 ?
Non. Non, et tu sais pourquoi ? Et là, t'es un enfoiré, en fait.
Rappelez-vous du menu au Cognac Blues Passion, qu'est-ce qui vous a amené ici ?
Bon, déjà, moi, je suis cognacaise, donc je viens tous les ans. Bon, c'est on attend le blues avec impatience chaque année. Et puis, c'est un moment de partage, de rencontre. On retrouve des gens qu'on a déjà connus des années précédentes. Et puis, on fait de belles découvertes. Et c'est toujours des moments très, très agréables à vivre.
Merci beaucoup. Bon festival.
Merci. On se connaît, non ?
Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu ici au Festival Blues Passion ?
C'est parce que, entre autres, il y a mon groupe préféré qui passe.
Et quel est ce groupe préféré ?
Toto. Voilà. Et puis, bon, le blues, on aime bien.
Et vous, monsieur ?
Ben, la même chose, je suis mon épouse. Dès que Toto vient en France, on va les voir.
Vous êtes un fan inconditionnel ?
Voilà, un fan inconditionnel de Toto, oui.
Vous pourriez faire les chœurs sur Rosanna ou Africa ?
Pas du tout.
Il va continuer à faire beau, on est à Cognac ici.
On dit Africa, mais c'est pas les meilleurs albums.
Alors quel est le meilleur album de Toto ?
Pour moi, c'est le 14, le numéro 14. Orphan, Burn, c'est le meilleur. Il y a aussi Falling in Between, il est pas mal aussi. J'ai 14 albums, il m'en manque un peu, mais voilà.
Et combien de fois avez-vous assisté à un concert de Toto ?
J'ai attendu que mes enfants soient partis, ça fait 5 ans, c'est le troisième concert qu'on fait. On a fait celui de Nantes, on a fait celui de l'Île-Seguin à Paris, puis là on vient à Cognac.
Merci beaucoup.
Toto, hein, c'est l'ambiance aussi, on nous a entendu parler de l'ambiance de Cognac. Ça nous donne l'occasion de voir un peu du pays.
Merci, bon festival. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes une festivalière. Quel est votre prénom, si je peux permettre ?
Alors, Solange.
Alors, Solange, est-ce que c'est votre première venue ici à Cognac, Blues Passion ?
Oh non, pas du tout. C'est là depuis 2001, à peu près.
D'accord.
Ouais.
2001. Donc ça veut dire que vous avez eu l'occasion de voir beaucoup de formules différentes, parce qu'on sait que Michel Roland est un garçon qui aime surprendre son public. Est-ce que cette époque 2001, 2002, 2003, avec une programmation différente, est-ce que c'est une période que vous regrettez ou à laquelle vous pensez de façon... voilà, de dire, il y a eu une évolution et c'est bien comme ça ?
Alors, moi, je ne suis pas du tout de nature à regretter, donc je suis ouverte à beaucoup, beaucoup de choses. Certes, il y a vraiment une évolution, ça, on peut pas le nier. Une belle évolution, quoi qu'en dise tout un tas de personnes, peut-être. La principale évolution va être sur l'ouverture à de nombreuses musiques, donc blues et afro-américaine et toute la grande famille. Je trouve que l'association est vraiment très pertinente sur l'écoute du public, et c'est-à-dire ils ont su s'adapter également à l'évolution, aux problèmes qui peuvent se produire tous les ans, techniques, humains. Donc c'est une magnifique évolution musicale et organisation générale, quoi.
Donc un festival à l'écoute de ses festivaliers, c'est ça, hein?
Ah oui, 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 tout à fait. Vraiment, oui, oui, tout à fait.
Est-ce qu'il y a déjà un coup de cœur pour l'édition 2019?
Il y a toujours des coups de cœur. Moi, je suis plus dans les coups de cœur de journée, en règle générale, bien que, parce que j'ai la chance d'être disponible, et du coup, je fais du matin 10-11 heures jusqu'à très tard, une heure et demie, enfin, quand ça se termine. Bon, quelquefois, il y a des petites choses qui me plaisent un petit peu moins, mais c'est tellement banal et rare que du coup... Alors, le coup de cœur, oui, j'ai eu un coup de cœur, mais hier, sur le groupe le mélange afro-américain de Mali et américain, alors Green Blues, et enfin magnifique, hein, j'adore Mike Tim Rogers, et en plus j'avais pas percuté qu'il était là, donc c'était un pur moment de bonheur. Donc du coup, en général, quand j'ai un coup de cœur, je prends le CD d'office aussitôt.
Voilà, joli coup de cœur pour Mighty Mo Rogers et Baba Sissoko qu'on écoute actuellement dans Mali to Mississippi. Alors, quand vous êtes une, ça va être ma dernière question, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Quand vous êtes une festivalière de longue date, on peut le dire, est-ce qu'il y aurait un ou deux artistes comme ça que vous avez vu il y a longtemps et vous dites, bah, ça y est, il a disparu maintenant, on ne pourra plus le voir. Je suis quand même vraiment content d'avoir assisté à ce concert-là ici.
Alors oui, il y en a plusieurs, mais je pense à un en particulier. C'est Joe Cocker. J'adore Joe Cocker. Si on m'avait dit qu'un jour je le verrais devant moi à 3 mètres dans notre magnifique jardin, je l'aurais jamais cru. Joe Cocker, effectivement. Après, il y a les grands du blues, B.B. King, qui est venu deux fois, et puis tout un tas, voilà, tout un tas de cette époque où on avait beaucoup, beaucoup de pépites, voilà. Mais moi, c'était Joe Cocker, voilà, entre autres.
Merci beaucoup, bonne fin de festival, Solange.
Merci beaucoup, tout le plaisir.
Voilà, le plaisir de rencontrer des gens, puis des vrais, hein, des festivaliers, pas des gens qui sont venus forcément par hasard, quoique c'est aussi bien de faire des découvertes par hasard. Il y a une interview qu'on a fait, qui n'a pas été organisée du tout par hasard, mais à laquelle on a assisté un petit peu par hasard quand même.
Ouais.
Adam, tu vois de qui je veux parler ?
Oui, je vois un petit peu Toto.
Ben ouais.
Mais oui, Toto.
Voilà.
Un grand morceau, Toto.
Alors, je ne sais pas dans quelles conditions on peut diffuser ça, parce que oui. La prise de son n'est pas extraordinaire.
Non,
on va écouter, c'est... on va écouter quand même un tout petit peu, voir ce que ça donne. Voilà, on va dire ça pour nos auditeurs. C'est vrai que ben, là, on était dans une conférence de presse sous tente, donc avec 0,1 mm d'épaisseur et avec un groupe de rock'n'roll qui jouait juste derrière. C'était un peu compliqué. En plus, on avait une prise de son qui n'était pas que pour nous, puisque conférence de presse oblige, on devait être une bonne dizaine.
Ouais, très lointaine.
Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire de ce son-là. On va essayer de traduire et puis de garder une ou deux questions. Et puis, on vous proposera ça pour l'émission du 28 septembre. Je crois qu'on peut passer directement au micro-trottoir, tu sais, avec Vincent.
Vince.
Hein,
oui.
Allez, Vince. Voilà, en direct du Cognac Blues Passion avec Vince, ça va ? Bah, très bien, et vous?
Bah, super. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, dis-nous.
Bah, écoute, là, je suis avec un projet qui s'appelle les Bad Scratchers, qui est un duo blues rock'n'roll que j'ai monté avec Flo, Florian Royo. Et puis, cet après-midi, on fait un petit showcase avec Léon Newhart à 16h30 à la boutique de Blues Passion.
Donc, deux casquettes cette année?
Ouais, complètement, oui.
Avec.
Multicasquette, ouais.
Avec des projets différents musicalement parlant. Hein.
Ah oui, bah oui, parce que là, effectivement, donc le duo des Bad Scratchers, c'est vraiment blues rock'n'roll, années 50-60. Puis Léon Newhart, c'est vraiment l'étiquette plus soul, funk, hip-hop, Nouvelle-Orléans. Donc oui, on passe d'un extrême à l'autre, quoi.
La Nouvelle-Orléans, c'est des vibrations qui continuent à te pulser vers l'avant, qui continuent à t'inspirer.
Ah bah complètement, ouais. C'est, je crois que c'est une ville qui ne cessera jamais de m'inspirer. Et puis le renouveau de la scène de la Nouvelle-Orléans est incroyable. On l'a vu il y a quelques années avec l'arrivée de Trombone Shorty. Maintenant il y a un groupe là, c'est Tank and the Bangas, qui est un truc qui est malade. Et cette ville se renouvelle à chaque fois en fait, en incluant différentes formes. Elle prend toutes les formes de musique actuelle, de la musique afro-américaine, donc le gospel, la soul, le funk, le hip-hop. Et moi c'est complètement, c'est ce qui me parle vraiment, quoi.
Qu'est-ce que tu as ressenti la disparition de Dr. John?
Une grande tristesse. Hein, c'est vrai qu'il y a eu vraiment une sale période pour les musiciens de la Nouvelle-Orléans. Il y a Dr. John qui est parti, il y a Spencer Bowen qui est parti peu de temps après aussi, il y a Bartholomew aussi. Enfin, et puis Dr. John, moi c'est Alain Toussaint il y a quelques années. Mais là, Dr. John, ouais, c'était pour moi un papa de cœur et de d'inspiration. Je tombais complètement amoureux de l'album Gris-Gris au départ, et puis tout ce qu'il a pu faire en suivant, jusque même le projet avec les Black Keys, il va laisser une place difficile à reprendre.
Avec les Black Scratchers, tu es plus sur un territoire boogie-woogie, blues.
Ouais, complètement, là, c'est plus boogie-woogie, blues, rock'n'roll, on reprend du Chicago, on reprend des morceaux de New Orleans aussi. Sur ce projet-là, je suis au piano, au chant et à l'harmonica, et Flo est à la guitare. Ouais.
Donc triple cachet pour toi.
C'est ça, exactement, ouais, faut pas le dire ça par contre.
Merci Vince, très bon festival 2019.
Merci Marc, et puis à très bientôt.
À bientôt. Voilà, avec Vince Polivilla, on poursuit avec un extrait du disque du mois. Il s'agit toujours de Paul Personne, Funambule. Et puis on va poursuivre et terminer tout à l'heure notre voyage au pays du Cognac Blues Passion avec les deux dernières interviews, un extrait de celle de Zach Harmon et puis l'interview intégrale de Yarol. Hein, c'est parti, Dan.
Allons-y.
Voici Paul Personne.
Yeah,
Extrait de l'album Funambule, ou tentative de survie en milieu hostile, avec le titre Bonheur. On en aura encore un autre extrait avant la fin de cette émission. On est ensemble jusqu'à 16h. C'est Sweet Home Chicago numéro 1064, avec une grosse partie de l'émission, bien sûr, dédiée au festival Cognac Blues Passion, édition 2019, avec, rappelons-le, en première heure, l'interview de Michel Roland, et puis toutes ces interviews qui se succèdent comme ça au fil des allées du festival et de nos allées et venues sur la place François 1er, dans les restaurants, devant les scènes, etc. Voilà, Dan, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton côté, par rapport à tes coups de cœur cette année, en 2019? C'est pas ton premier Cognac Blues Passion, il y a une saveur particulière ou...
Ah, j'en ai eu beaucoup, hein. Est-ce qu'il faut que je donne tout?
Ah oui, donne tout,
donne tout. Alors, évidemment, le premier jour, pour moi, c'était quand même Cross Border Blues, avec le trio acoustique. Avec Sloan Kennedy, Jean-Jacques Milteau, Vincent Segal. J'ai aussi Roland Chacoté, bien entendu. Gino Matteo aussi, qui a fait vraiment deux superbes prestations, une avec son groupe et l'autre avec sa femme. Mmh. On a beaucoup aimé Gino Matteo, qu'on aurait dû interviewer, mais on l'a un petit peu raté.
On l'a loupé, c'est notre faute.
Ouais. Évidemment, Cass Hawkins, Zach Harmon aussi. Rio Blues, alors moi c'est pareil, j'ai vraiment un gros coup de cœur depuis fort longtemps pour Matty Rogers. Et puis donc aussi, un fantastique Negrito, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup frappé. C'est quelqu'un qui avait connu vraiment des déboires avec un accident de voiture qui l'avait fortement handicapé, parce qu'il a encore une main handicapée. Et là, il est revenu et vraiment, ça nous a vraiment un univers vraiment extraordinaire, très très fort. J'ai beaucoup aimé aussi ça, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
Ouais, très teinté de soul et de rock, un artiste assez atypique, j'ai envie de dire, et très prenant.
Avec beaucoup d'énergie.
Mmh. Passionnant.
Voilà, c'est un peu tous mes coups de cœur, on va dire. Et puis bon, après, on va sortir un peu du blues, on va dire, un rock, et quand même Roddy Hudson, des Supertramp, Toto. Bah oui. Et puis chez les Français, toujours une très bonne prestation de Bernard Lavilliers, hein, il faut le signaler. Et puis Véronique Sanson, qui a vraiment été aussi très très attachante. Alors au début, j'ai peut-être eu du mal un peu à accrocher, et puis après, au fur et à mesure, quand elle nous a dit, là, j'ai pas envie de rentrer chez moi, je vais me faire chier dans mon hôtel.
C'est ça, exactement.
Donc imaginez que vous êtes là chez moi, dans mon salon, et elle s'est mise toute seule à faire des chansons comme ça, piano, voix, et là, ça a été un moment vraiment extraordinaire. On a vraiment senti, effectivement, qu'elle voulait partager beaucoup et qu'elle avait pas envie de rentrer.
Et d'ailleurs, aux grandes dames de Yarol, qui devait jouer un petit peu plus tôt, c'est vrai que Véronique Sanson est arrivée sur scène avec une petite demi-heure de retard déjà, ensuite n'ayant pas envie de repartir,
elle a prolongé.
Yarol a commencé, lui, de l'autre côté du parc, et il nous a gratifié la concert très très teinté de rock, et puis également des réminiscences de son premier groupe qu'il avait fondé en 1987, FFF. Yarol qui nous a accordé une interview d'un petit peu plus de 10 minutes que je propose en intégralité, si tu veux bien, Dan.
D'accord.
On écoute Yarol. Voilà, en direct du Cognac Blues Passion avec Vince, ça va?
Très bien, et oui.
On a dit Yarol, voilà, c'est ça. Le disjockey est viré, hein, c'est officiel. Yarol, s'il te plaît. Allez. Voilà, en direct du Cognac Blues Passion avec Yarol Pouveau. Yarol, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est très, très heureux et en même temps... on t'attend un petit peu au tournant ici sur le festival de Cognac, pas spécialement sur le festival de Cognac, mais d'une manière générale par rapport à ce que tu fais, à ce d'où tu viens. Pour beaucoup de gens, Yarol, c'est d'abord FFF. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est toujours ta réputation?
Bah évidemment, c'est ma réputation, c'est mon histoire, c'est comme, je vais pas me mettre à renier ce que j'ai fait avant, j'en suis très très fier, je suis FFF, c'était une histoire fantastique, on a fait des concerts légendaires, on a fait des disques que j'adore, qui ont touché beaucoup de gens, et évidemment, c'est pourquoi je m'en mettrais à renier. Non, écoute, j'ai la chance de n'avoir fait dans ma carrière que des trucs dont je suis très fier. J'ai jamais fait de projets dans lesquels je me suis pas reconnu et qui m'ennuyaient à faire. Donc,
comment est-ce qu'on devient guitariste et directeur artistique d'un garçon comme Johnny Hallyday?
Parce que, écoute, ça a été une rencontre. On avait une envie commune de faire du rock'n'roll et on s'est trouvé. Oui, voilà, une rencontre. On a très vite échangé. Et puis lui, il était dans une position effectivement où il avait eu une envie de revenir un petit peu des sensations plus organiques, un peu, peut-être un peu plus sauvages, des concerts de rock'n'roll, parce qu'il avait fait pendant longtemps des trucs qui étaient très réglés, très millimétrés, des shows plus calibrés, on peut dire. Alors que moi, le côté plus bordélique du truc, je pense qu'il avait envie de retrouver ça. Ça lui rappelait peut-être un peu ce qu'il avait pu faire dans les années 70 ou 60. Et on s'est bien entendu là-dessus. Et on a commencé à travailler ensemble, ça s'est bien passé. Puis il m'a proposé de m'occuper de la direction musicale. Et voilà, quoi.
Donc ça voulait dire recruter des musiciens? Pas forcément.
Alors, il faut savoir un truc, que Johnny savait exactement avec qui il avait envie de travailler. Il avait déjà une équipe de musiciens qu'il voulait garder, donc c'était moi qui appelais quelques musiciens, et puis lui qui voulait garder son batteur, son autre guitariste.
Son harmoniciste.
C'était un échange ensemble, quoi.
Greg était déjà dans l'équipe?
Ouais.
Alors, à cette époque-là, tu arrives comme guitariste principal de Johnny Hallyday, c'est ça?
Ouais.
Et comment est-ce que tu as intégré le répertoire? Comment ça s'est passé au départ?
Tu veux faire une interview sur Johnny en entier?
Pas que, non.
Hein? Bon. Écoute, les chansons, elles étaient là. Hein, les chansons, on les connaît tous, elles étaient démentes. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est revenir un petit peu aux versions de base. Aux versions un petit peu originales qu'elles étaient sur les albums. Elles avaient été tellement traficotées, changées dans tous les sens, qu'on s'est vachement inspiré des versions originales et des lives de la fin des années 60 et des débuts 70. Donc on voulait revenir faire cette période-là.
Et ce que tu fais actuellement, tu vas voir, c'est pas une interview que sur Johnny, ce que tu fais actuellement, bien sûr, Johnny nous a quittés, comme chacun le sait, et tu démarres une carrière sous ton propre prénom d'abord. Pourquoi pas Yarol Poupeau? Pourquoi Yarol?
Écoute, j'ai la chance d'avoir un prénom dont on se rappelle déjà. Si je m'appelais Nicolas ou Hervé, peut-être j'aurais gardé mon nom de famille. Yarol, comme tu dis. Et puis, n'est-ce pas, Yarol, il y a presque un nom de groupe. Ça pourrait presque être un groupe, quoi, on sait pas trop ce que c'est. Et puis voilà, Yarol Poupeau, c'est mon nom. Si demain je réalise ton disque, tu vois, si je suis producteur de ton disque, ou si je veux jouer sur l'album de la jeune fille de la guitare, ce sera marqué Yarol Poupeau. Mais ma carrière solo, entre guillemets, c'est Yarol.
Alors dans ta musique, il y a essentiellement du rock'n'roll, mais j'ai lu par ailleurs qu'il y avait chez toi et dans ton approche musicale, d'abord un amour du métissage entre plein de styles. On s'en rend compte depuis tes débuts. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au blues? C'est ça qui va intéresser aussi les auditeurs de Sweet Home Chicago et puis peut-être quelques autres. Ton rapport au blues depuis, j'ai envie de dire, depuis le moment où tu t'es intéressé à la musique, ou alors depuis le moment où la musique s'est intéressée à toi?
Écoute, moi le blues, c'est vraiment le truc qui m'a... Bon, d'abord, faut savoir, d'abord il y a Elvis Presley dans mon histoire. Elvis Presley qui est le mec qui a marqué vraiment le truc. Et ensuite, très vite, j'ai eu un flash sur le blues. Muddy Waters, j'avais une cassette de Muddy Waters, album I'm Ready, produit par un Johnny Winter, hein, qui date de 69, 70, je sais plus. Ah ouais, peut-être un peu plus tard que ça, t'as raison, à 77, que j'ai écouté en boucle. C'était des morceaux en mi, c'était des morceaux en la. Je démarrais la guitare, j'ai joué ça mais en boucle. J'avais aussi une autre compile de blues de Sun Records aussi. Non, avec les morceaux de Howlin' Wolf qu'il a pu faire chez Sun Records, la Highwaymen et tout ça, qui sont déments. Alors le blues, on pourrait faire, si tu veux, 5 heures d'émission, parce que, voilà, de Robert Johnson, j'ai toujours été un grand fan de blues. Tu vois, moi je suis un dingue de... Bon, on parlait tout à l'heure de Hound Dog Taylor, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est dément. Sun House, évidemment. C'est tellement varié, c'est tellement vaste, le blues. Il y en a tellement de sortes de blues. Puis c'est déjà une musique métissée, le blues. Ça n'existe pas, le blues pur et dur. C'est déjà une espèce de mélange de folk song, de trucs. Voilà, après, je trouve que il faut faire gaffe, le truc qui m'ennuie peut-être un petit peu des fois, c'est que le blues, il est devenu, pour pas mal de gens, un petit peu plan-plan. Or, le blues, c'est une musique dangereuse. C'est une musique dans laquelle c'est pas une musique qu'on peut faire enfin, pour moi, je considère le truc comme n'étant pas une musique dilettante. C'est un truc, voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du blues un peu tellement classique maintenant. Attends. Des fois, je m'ennuie un petit peu. J'aime le côté dangereux. Les dernières émotions que j'ai pu avoir de blues actuel. Bon, il y a un mec qui s'appelle Gary Clark Jr. que j'aime beaucoup. Et puis surtout les Black Keys, ce qu'ils faisaient au début, les Black Keys, c'était fantastique.
Ils sont en train d'y revenir d'ailleurs dans leur dernier album.
Ouais, les Black Keys, les premiers trucs des White Stripes aussi, Jack White étant un dingue de blues. D'ailleurs, sur son label, il réédite énormément de trucs de blues fantastiques, notamment tous les enregistrements de Paramount Records qui étaient faits dans les années 20, qui sont démons. Ah oui, il y a plein de choses. Moi, le blues, c'est vraiment peut-être que la musique, si on peut appeler ça une musique, mais d'île déserte, quoi. Voilà, c'est peut-être ce que je préfère. Mais j'aime le blues un peu rappeux, un peu déglingué, un petit peu qui ne fait pas forcément 12 mesures, qui est un petit peu...
Un petit peu à Landock Taylor. Tu citais Landock Taylor, le premier artiste qui avait été enregistré chez Alligator Records, chez Bruce Lower. Un type qui avait 6 doigts à l'une des deux mains.
Ouais, Landock Taylor, ouais. Et je suis un grand fan aussi d'autres mecs, genre Slim Harpo, tu vois, tout ce qui est XLO, le label XLO, il y a des trucs fantastiques. Jimmy Reed, dément, quel chanteur de folie, son writer de ouf. Enfin, voilà.
Alors, voilà, la vieille école, et puis j'ai envie de dire, là, il y a une scène blues qui existe en France, il y a à peu près tous les styles de blues, tu l'as dit toi-même, le blues c'est une musique plurielle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un S au mot blues. Il y a plein d'artistes, si on reste sur la France, qui jouent le blues chacun à leur façon, il y a du blues rock, il y a du blues plus trash, il y a du blues plus académique, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des artistes actuels que tu écoutes?
Là, c'est marrant. Oui, moi, il y a un groupe que je trouve vraiment très bien, c'est Delgrès. Delgrès, ouais, vraiment très bien. Et puis le fait qu'il se soit en créole et qu'il remette dans leur musique justement cet héritage un peu de la culture créole, de l'esclavage, des Antilles et tout, ça m'a vraiment bluffé. Quoi. J'ai trouvé ça très très bien. Et ce mec-là, et Pascal Danaé, très très fort. Le groupe est super, c'est original avec le tuba qui fait la basse et tout. Non, j'ai trouvé ce groupe très intéressant.
Oui, tu viens de sortir un album solo. Quelles sont tes influences? Et peut-être plutôt rock. Est-ce que peux-tu nous parler de cet album?
Bah, écoute, l'album, il est... oui, il y a toutes mes influences, on en parlait. Il y a évidemment une base de blues, il y a du rock'n'roll, il y a du funk, il y a de la soul. Il y a aussi des trucs plus modernes, il y a du hip-hop, il y a des musiques électroniques. Enfin, moi, je suis un... J'ai aucun filtre par celui que la sensation que me procure la musique, quoi. Donc moi, tout ce qui est, voilà, j'ai écouté aussi bien Justice, Daft Punk, que Sun House, que Burning Spear, que Motorhead, que voilà. Et je pense qu'on est de plus en plus comme ça aujourd'hui. C'est un peu fini, les mecs qui sont bloqués sur un seul style. Faut être un peu avoir un peu des œillères pour n'écouter que du blues, par exemple. Le blues se nourrit d'autres musiques, se nourrit d'autres trucs. C'est comme ça que... on parlait du rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est une musique métissée, mais grave. Tu vois, c'est Elvis, c'était de la nuit. Tu vois, les premiers 45 tours d'Elvis, c'est Arthur Crudup d'un côté et je sais plus qui c'est, Bill Monroe de l'autre. Donc, tu vois, c'est quand même vraiment...
Oui, ou alors quand il faisait Hound Dog de Big Mama Thornton, qu'elle avait enregistré 3 ans avant.
Hound Dog est écrit quand même par Lieber and Stoller, quand même par deux petits blancs becs dans un bureau sur un ball building. Donc c'est marrant que cette chanson...
Ton album, est-ce qu'on pourrait le résumer au titre Boogie With You?
Ah ben ce serait dommage. Ce serait dommage si vous voulez, mais écoutez, il y a quand même plus de choix que ça.
Dernière question, si tu devais faire là tout de suite ou dans les semaines ou dans les mois qui viennent un nouvel album, est-ce que tu prendrais des invités et si oui, dans quel style et si oui, lesquels? Allons-y. On fait notre marché.
Oui, écoute, moi de toute façon, j'aime la collaboration avec des gens. Je reviens de tourner un clip à Kinshasa, là, au Congo, c'était fantastique. Donc j'adore travailler avec des musiciens africains. Je pense que j'aimerais bien faire un truc avec des rappeurs, ouais. Ou avec des mecs de musique électronique, ou avec des musiciens un peu de... qui viennent pas du même environnement que moi. D'autres gens à qui on peut faire un truc avec un autre mec qui fait du rock, bon, c'est ça. Oui, avec plaisir, tu vois, mais...
Merci, Yérol. À très bientôt. Et bon concert ce soir.
Merci, à tout à l'heure.
Voilà, interview avec Yérol. On va écouter un extrait de son album. Ça s'appelle No Filter, justement. Ça serait bien que ça passe, ça serait bien que le titre, comment tu dis, Dame?
Je dis on attend.
Ben oui, on attend.
Oui.
On attend.
Ça va.
Voilà. Oh!
from a little box. While you're falling in disgrace, to try to pick your locks.
No Filter, extrait du dernier album de Yarol. Merci à Yarol et à tous les autres pour ces interviews. Et on va conclure pour aujourd'hui notre voyage au pays du Cognac Blues Passion avec un artiste américain. Il s'agit de Zach Harmon qui nous a reçus dans le hall de l'hôtel et de façon fort sympathique, même on va dire deux fois plus longtemps que prévu. Hein. Je ne sais pas si on va essayer de traduire au fur et à mesure, Dan.
Un petit peu, oui.
On essaye. Oui. Allez. On écoute ça. First, and you're going to play tomorrow with Terry and Monica Bean as duo. Can you tell us more about this duo? Did you play together? Est-ce qu'ils ont déjà joué ensemble avec Terry Harmonica Bean?
Terry and I have known each other for years.
Ça fait des années qu'on se connaît.
So we've played together off and on. You know,
on joue très souvent ensemble.
We're both from Mississippi, you know, so we both speak the same language musically.
On parle le même langage musical.
How about your Mississippi
inspirations as a blues man? I always read everywhere. Mr. Albert King on guitar.
Okay. Alors partout où j'ai entendu parler de vous, en tant que musicien inspirant, c'était Albert King.
Young.
Alors qui étaient ces les musiciens qui l'ont inspiré quand il était jeune?
Who were the most reliable musicians that inspire your game as a guitar player or as a singer when you began? Well, that would be a lot of folks. We'd be sitting here talking all day.
Il y a plein de gens.
You know, I always say that in Mississippi, blues is like air, you know, and if you breathe, you're going to get it, you know, and Mississippi is the birthplace of American music.
Voilà, c'est des gens du Mississippi, c'est là où blues est né.
There was always someone around.
Il y a toujours quelqu'un.
I mean, personally, guys like Sam Myers, you know, Bobby Rush.
Little Milton,
you know, Bobby Bland. Those are all guys that were around, you know, that personally influenced me, you know, that helped me develop myself.
Voilà, qui l'ont aidé à
développer son propre style et son art.
I cited Little Milton, a guy from the what we call here in Mississippi, the Chitlin Circuit.
Does it still exist in 2019?
Est-ce que ça existe toujours, ce fameux Chitlin Circuit?
It does in some ways, you know.
D'une certaine façon, oui.
It's not quite like it was.
C'est pas tout à fait ce que c'était.
Those days, because simply because of integration, you know, the Chitlin Circuit was greatly influenced by the Jim Crow laws of the South.
Voilà, you know, ça a surtout été influencé par les lois de Jim Crow.
Those laws were pretty much abolished in the '60s, you know.
Dans les années 60.
The Chitlin Circuit, though
there are clubs that were part of the Chitlin Circus that still exist today.
Mais il y a encore
it's
des
not
clubs qui
nearly as vibrant as it was back in the 60s.
Ça n'était pas aussi, ce n'est plus aussi vibrant que ça ne l'était à l'époque.
Oh, of course. Absolutely.
Nice. Usually bluesmen from Louisiana, Arkansas and Mississippi go back to Chicago. And Texas bluesmen go to California. Voilà, d'habitude, les gens qui habitent dans le Mississippi, en Louisiane, en Arkansas, émigrent plutôt vers Chicago. Ceux du Texas, on les retrouve plutôt en Californie.
Mississippi, but you came to California.
Alors lui, il est du Texas, il est parti en Californie. Ben, parce qu'il fait froid à Chicago, tout simplement.
I mean, that's basically the truth, you know. Well, you know, Mississippi, Chicago's like big Mississippi. That's what
Chicago,
we used to
c'est
call
comme
it
un grand Mississippi.
Up, you know, because... You know, my father spent time in Chicago. I had two uncles and three aunts in Chicago.
La famille, trois tantes, deux oncles.
A lot of family in Chicago. So, you know, Chicago was a place that I visited, you know, as a kid several times, you know.
C'est un endroit où je suis allé très, très nombreuses fois étant jeune.
I didn't particularly care for that, but I don't know whether Chicago would have been a place I would have went anyway, you know, because... When I left Mississippi, I didn't leave Mississippi because I wanted to. I left Mississippi because my father told me I had to.
Je suis parti tout simplement parce que mon père m'emmenait et j'ai pas le choix à l'époque.
If music is what you want, you're going to be in the music business and you need to go to where the music is, you know. And so he told me I needed to go to New York or California.
Voilà, tu avais le choix entre aller à New York ou en Californie. C'est là où le music business se passe, hein, effectivement. C'est ce qu'on lui a dit.
And so I chose California because it was sunny.
J'ai choisi la Californie parce qu'il y fait soleil, tout simplement. Voilà, la suite de cette interview de Zach Harmon dans l'émission du 28 septembre. On poursuit avec un extrait de son tout nouvel album, justement, qui s'appelle Mississippi Barbecue. Je vous propose Gypsy Road.
Mama saw the blood on
Voilà, l'album s'appelle Mississippi Barbecue. Il est signé Zach Harmon. C'était lui qu'on avait en dernière interview tout à l'heure. Depuis 13h, quelques nouveautés. L'interview en direct de Michel Roland. Puis toutes ces interviews au fil du festival Cognac Blues Passion. Et il nous reste un petit quart d'heure à passer ensemble. Donc le temps de revenir sur un morceau du disque du mois. Et puis aussi, Dan, avec toi, de conclure sur le festival. Et puis aussi, pour les gens qui prennent l'émission en cours, le pourquoi de ta présence ici. Parce que ces interviews, on les a faites ensemble.
Oui.
Et toi, tu animes une émission sur Radio Calade, en région Rhône-Alpes, avec deux Baby Queens. Je te laisse tirer
en parler. L'émission s'appelle Baby Queens Radio Show. J'ai deux amies. C'est donc Angie, Angélique Langlois, et Little Queenie, Sylvie Nabet, avec lesquelles nous avons créé une émission il y a à peu près 3 ans en arrière. À cause et grâce à notre passion commune pour le blues. Et donc c'est sur une radio donc à côté de pas très loin de Lyon, on va dire une quarantaine de kilomètres. On dit Villefranche, mais c'est plutôt Glaizé. Et donc cette émission, on l'a fait les dimanches sur Radio Calade. C'est une radio.
C'est une petite radio comme un 666.
Voilà, c'est une radio associative. Et donc c'est la radio du Beaujolais, puisque Villefranche-sur-Saône se trouve en Beaujolais. C'est la région du Beaujolais et du Val-de-Saône.
Ça change de la cristalline qu'on voit ici.
Et oui, et en plus on est les seuls sur le territoire, donc on est assez écoutés. Il y a beaucoup d'émissions. Thématique aussi, un peu de cinéma, musical, un peu de tout. Et donc notre émission qui s'appelle Baby Queens Radio Show.
Et une émission littéraire également.
Alors c'est sur un autre site, je fais aussi une autre émission qui s'appelle Au fil des arts. C'est sur l'Arte Blog Radio avec Dominique Molin, on fait ça à deux. Et effectivement, c'est un magazine culturel. On reçoit plutôt des écrivains, des plasticiens, des poètes, voilà, sur des interviews d'une heure ou plus. Et ensuite, on les met donc sur l'Arte Blog Radio et on les partage ensuite sur Facebook.
Bon, super. Petite question, Cognac Blues Passion, c'était pas ta première visite en 2019. Mm-hmm. C'est un festival que tu connais bien. Ton impression par rapport aux artistes de cette année, tu nous en as parlé. Mais par rapport à l'évolution que tu peux noter depuis une petite dizaine d'années que tu vas à ce festival, ça se passe comment pour toi?
Moi, je pense que je suis peut-être arrivée un peu après l'évolution dont tout le monde parlait, c'est-à-dire un cognac totalement blues, un cognac plus élargi.
Plus ouvert, oui.
Donc, et moi, ça me va très bien parce qu'en fait, évidemment, j'écoute beaucoup de blues et donc ça me permet aussi de voir et d'écouter plein de gens que peut-être je n'aurais pas été écoutée. Donc, pour moi, il y a énormément de découvertes, de redécouvertes. Pour moi, c'est un festival qui me va très bien et j'adore ce festival.
Bon.
Et je voudrais faire un petit coucou à mes amis de Cognac, parce que j'ai une amie, Maria, chez qui je vais chaque année. Voilà, un petit coucou à Maria et puis à Rosie.
Salut Rosie.
À tous les amis de Cognac avec lesquels je passe énormément de bons moments dans ce super festival.
Merci Dan, on va poursuivre avec un extrait du disque coup de cœur du mois, Funambule, Paul Personne, et puis juste après, un vieux truc, pas très bien enregistré, mais alors super, super live, je vous en dirai plus tout à l'heure. Allez, voici Comédia, extrait de Funambule, c'est Paul Personne.
Yeah, qu'on formate et qu'on balade. Un coup de colère, un mouton avachi, tout ça n'est qu'une funeste blague.
Voilà, cette 1064e émission se termine très bientôt. On va pouvoir écouter un extrait du tout dernier titre. On a choisi, Dan, un truc pas très bien enregistré, mais un peu mythique quand même.
Voilà, hein, un coup de cœur de Marc.
Voilà, puis peut-être pas un invité de Marc, mais pas loin. Ça s'appelle The Ghetto, c'est en live, et c'est signé Donny Hathaway, ça date de 1972. On n'aura pas le temps d'écouter tout, parce que juste derrière, il y a une autre émission. Mais c'est pas grave, on va s'imprégner de ça. Et puis on se donne rendez-vous le 14 septembre avec encore plein d'invités. Je vous dirai tout à l'heure de qui il s'agit. Voilà. Merci Dan d'avoir été là aujourd'hui.
Merci Marc.
À très bientôt.
Ciao.
Voilà, pendant que ça démarre tranquillement, je vous donne les noms des invités pour l'émission du 14 septembre. Dans 15 jours, on aura Jacques Picard de l'association Backstage pour le 5e RC Blues Club qui se déroulera le 27 septembre 2019 et qui nous parlera également de la 24e nuit du Bousacan le 8 novembre. Et puis, il y aura également au téléphone Philippe Carreau pour la sortie de son album Blues Stories. Et puis, sous réserve, à confirmer, une interview par téléphone de Paul Personne pour la sortie de son album Funambule ou tentative de survie en milieu hostile. J'attends la confirmation de la prod de Paul Personne et je vous avertis sur Facebook dès que possible. Salut, bye bye.